Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de votre magazine Bien fait pour vous. Et en ce 28 novembre, nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi. Mélanie, je vous laisse commencer. Qu'est-ce qu'on a dans notre émission du jour ?
Alors Julia, ce matin, on va vous poser cette question. Savez-vous ce que vos rêves disent de vous ? Notre vie onirique, un sujet qui passionne le plus grand nombre. Mais alors, pourquoi rêve-t-on ? Que se passe-t-il durant la nuit dans notre cerveau, dans notre inconscient, pour nous pousser à faire des songes aussi farfelus, bizarres, effrayants parfois. D'ailleurs, pourquoi certaines personnes se rappellent les moindres détails et d'autres rien du tout. On va faire le point ce matin avec la psychanalyste et coach Florence Lautredoux. D'ailleurs, si vous voulez tirer l'un de vos rêves au clair, n'hésitez pas à nous laisser un message dès maintenant au 3921, notre répondeur.
Et puis après cela, à 11h45, nous serons rejointes comme chaque jour par nos bienfaiteurs et ce seront deux bienfaitrices en poste aujourd'hui. D'abord, Anissa Haddadi, elle veut nous parler des multiples box de vêtements pour enfants à notre disposition sur le marché désormais. Et puis, vous verrez, certaines proposent même des vêtements de location et ça, c'est bien pratique. Et puis ensuite, avec Perrine Brami, notre spécialiste des questions d'écologie, on ira regarder dans le secteur bancaire et surtout du côté de ce qu'on appelle les banques vertes. Et bien voilà, bien fait pour vous, c'est tout de suite.
Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1, nous sommes avec vous jusqu'à midi et ce matin, on s'intéresse tout particulièrement à ce qui se passe lorsque nous fermons les yeux, lorsque nous rêvons. Alors justement, pour démarrer ce sujet, on va écouter un grand rêveur. Bonjour Clément Lannou.
Bonjour tout le monde, effectivement. Julia, je fais partie de cette catégorie de personnes qu'on appelle les rêveurs. Rêver est, je pense, mon activité favorite, que ce soit le jour, la nuit, en dormant ou même en marchant. Et en plus, je viens de me rendre compte de quelque chose, c'est qu'en dormant, c'est un acte écologique. Parce que rêver, c'est zéro gaspille. Finalement, quand on dort, on recycle les événements, les pensées, les situations de la veille à travers des images qu'il faudra déchiffrer tel un rébus et grâce à des professionnels. Ce jeu est passionnant à condition d'avoir les bonnes cartes puisqu'en ce moment, je dois vous l'avouer, je fais des rêves nuls.
Oh.
Je fais des rêves nuls. Il ne se passe rien en fait.
C'est-à-dire...
La semaine dernière, j'ai rêvé que j'étendais le linge. Voilà.
Nul.
Et la nuit dernière, j'ai rêvé que j'attendais un appel du garagiste.
Nul, effectivement.
J'attendais l'appel. Et puis ce qui est horrible, c'est que le temps passe à vitesse réelle dans mes rêves. Ce n'est pas comme une bonne série Netflix où hop, je passe d'une scène à l'autre.
Oui.
Non, quand je prends le bus, je ne suis pas directement dans le bus. Je suis à l'arrêt de bus, je regarde. Il y a 11 minutes d'attente.
Oh là là là.
Je me dis, je vais prendre ma voiture, je regarde. Et dans mon rêve, il y a Waze qui me rajoute 12 minutes plus 12 minutes. Donc oui, je vais essayer de l'analyser. Je me dis, peut-être que c'est mon inconscient qui me dit de ralentir. Parce que c'est ça le rêve en fait, c'est s'écouter, c'est se comprendre, c'est se passer un message à soi-même. Après, il faut être bien entouré pour l'interpréter. Parce que par exemple, si vous rêvez d'une bouteille de vodka brisée, certains vont vous dire « Ah, mais voilà, c'est les violences en Russie, ça t'atteint. » Et d'autres vont vous dire « Ah, mais t'es complètement alcoolo. » Voilà. Donc, il faut être bien entouré, ça c'est très simple. Moi, j'ai un autre problème aussi, hein, puisque vous êtes là, j'en parle.
Oui, oui.
Non seulement je rêve de rien, mais en plus, je parle dans mes rêves. Et ça, c'est très gênant. Je sais que vous êtes très nombreux et c'est une vraie source d'angoisse pour du coup le réveil et le quotidien, puisqu'on la connaît. Cette phrase en coupe quand on se réveille et que l'autre nous dit « Ah, t'as parlé cette nuit. » Et toi, tu sais que t'as rêvé d'une collègue ou d'un collègue
et
que c'était
toujours, ouais,
incroyable. Et du coup, bêtement, on lui dit « Ah bon, et j'ai dit quoi ?» J'ai crié le nom d'une femme.
ça m'étonnerait.
Voilà. On tente l'humour. Ça devait être Aline pour qu'elle revienne. L'humour très malvenu à ce moment-là. Je taquine, mais c'est quand même très sympa. De dormir à deux, d'avoir cet inconscient qui vous porte la nuit, c'est vrai que qu'est-ce qu'il y a de plus beau aussi dans son sommeil d'être réveillé par quelqu'un qui a très envie de toi. Sauf bien sûr si tu dors en prison.
Voilà.
Après, on a aussi dans des couples, l'autre qui nous fait la guerre parce qu'en fait, on a déconné, pardon, hein,
ouais.
Mais dans le rêve à eux. Et nous, on y est pour rien parce qu'on n'y était pas dans ce rêve.
Mmh.
Et on a tous eu quelqu'un qui se réveille bougon en nous regardant en disant bah, t'es content hein et nous on a rien fait et on cherche et puis à midi on va finalement en savoir en disant mais t'étais où quand j'étais à la station service attaqué par un enfant de 12 kilos hein. Ah, ils sont bizarres ces rêves aussi, on les étudiera. Donc voilà, j'ai aussi appris quelque chose, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'espère l'apprendre dans cette émission, il paraît qu'on ne peut pas mourir soi-même dans son propre rêve.
Ah.
Et depuis que j'ai appris ça, je suis hyper courageux dans mes rêves. Je vais au combat, allez-y, tuez-moi, il ne se passera rien.
C'est vrai, donc, je cherche, hein, jamais.
Ouais, normalement.
En fait, on peut tuer des gens. Dans
Après, je suis encore en train de travailler le sujet, donc ce que je vous propose pour approfondir au mieux, et parce que j'ai vraiment envie d'enquêter jusqu'au bout, c'est de retourner me coucher.
Voilà. Ouais, c'est une bonne idée.
Je vous souhaite une bonne journée.
Merci Clément Lannou pour ce prélude qui nous a déjà bien installé dans notre sujet du jour. On va continuer ainsi maintenant avec notre invitée, c'est vous Florence Lautredoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, coach et l'autrice du livre « La femme qui ne se souvenait plus de ses rêves » paru chez Odile Jacob. Florence, en tant que psychanalyste, les rêves, ça vous a toujours passionné, j'imagine, mais peut-être vous, plus que d'autres confrères, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous a toujours intéressé dans ce monde onirique, on va dire ?
La créativité, l'infinie créativité, l'humour. Merci pour la chronique, c'est exactement ça. L'humour, la créativité, puis le côté insolent aussi.
Des rêves ?
Bah oui, c'est très insolent un rêve. Qui n'a pas rêvé lors la veille d'un entretien annuel de coucher avec son patron et de se retrouver le lendemain un peu gêné pour l'entretien. C'est le genre de choses. C'est inconvenant, c'est iconoclaste, c'est drôle.
Est-ce que c'est vraiment raisonnable de prendre des décisions importantes en fonction de ses rêves? Là, vous parliez du patron à qui on va demander une augmentation. Est-ce que ça doit influencer notre réaction du lendemain?
Justement, le rêve n'aime pas tout ce qui est de l'ordre du devoir. Mais si on a un rêve, c'est marrant, il y a parfois des rêves qui sont tellement forts, qui résonnent tellement fort en vous, qui vous amènent à vous poser des questions et oui, à ne pas aller dans telle ou telle direction.
Oui, quand même. La nuit porte conseil, c'est un adage qui se révèle.
Oui, on a plus d'une quarantaine de références à des rêves de ce style dans la Bible. Et puis, puisqu'il nous a quittés il y a 3 jours, Christian Bobin, quand il a écrit Le Trébat, il parle de la vie de Saint François d'Assise, relate cet épisode qu'on connaît tous, où Saint François pense qu'il est promis à une carrière guerrière, parce que c'est ce que sa famille attendait de lui. Il part, au XIIIe siècle, il part dans cette direction-là sur son cheval, et il a un rêve, une nuit dans une auberge, et il arrête tout, il revient, et il décide de consacrer sa vie à sa foi, à 20 ans.
Est-ce qu'il y a d'autres cultures que la nôtre dans lesquelles on prend peut-être les rêves encore plus au sérieux que
ouais,
nous, français,
les bouddhistes,
par exemple,
ouais. Les bouddhistes, pour eux, c'est les chamans et les bouddhistes. Pour eux, les bouddhistes, particulièrement les bouddhistes tibétains, on a intérêt à faire très attention parce que pour eux, ce sont des guidances de notre âme, mais aussi des guidances qui nous aident à passer de l'autre côté, à préparer notre mort. Pour eux, ce qu'on fait la nuit, c'est le monde dans lequel on est la nuit, d'ailleurs ça promet d'être joyeux après, et une annonce du monde qu'on connaîtra quand on mourra. Donc plus on soigne son monde en s'amusant de ses rêves, oui. Même des rêves étranges.
Clément, vous allez tendre le linge dans votre vie future,
avec
ça a l'air
plaisir.
Passionnant.
Je ferai le vôtre aussi.
Merci. Merci, ça c'est vrai. Non mais plus on regarde, mais ça fait des rêves magnifiques, le coup du linge, la pureté... le calme, les gestes traditionnels.
Vous voyez que ce n'était pas si insignifiant que ça.
J'adore mes rêves.
Oui.
Et est-ce que c'est vrai, parce qu'on en parlait avec Philippe Vandel, qui disait qu'il ne se souvenait pas de ses rêves. Est-ce que ça veut dire qu'il rêve? Est-ce qu'on rêve tous? Ou est-ce que, tout simplement, pour certains, on ne s'en souvient pas?
On rêve tous, et puis il y a des périodes de notre vie où on ne s'en souvient pas. Ouais. Il y a des gens qui ne s'en souviennent pas, pour plein de raisons, qui peuvent être, ils ne s'y intéressent pas. Ou bien, il y a trop de choses à faire dans la journée, donc le mental récupère tout de suite au réveil, donc... Ça court-circuite le souvenir du rêve. Il y a plein d'explications possibles.
Mais on rêve tous.
Ah oui, sinon on deviendrait fou.
C'est une bonne chose.
On est déjà un peu, mais alors là, oui. Ce sera encore plus. Quoi.
Merci beaucoup Florence, on reste ensemble. Dans Bienfait pour vous, on vous fait rêver ce matin, rien que ça. Et on va passer justement au sujet qui passionne tout le monde, la signification de nos rêves. Pourquoi Julia rêve sans cesse qu'elle est capable de respirer sous l'eau comme une sirène?
C'est Brad Pitt, moi.
Ah oui, c'est vrai, mais j'ai pas voulu le dire une autre fois, parce que vous le répétez à chaque fois celui-là.
Incroyable.
De manière récurrente.
Incroyable.
Bon, on en reparlera, on va vous aider Julia, on va vous aider à comprendre ce que vos rêves veulent dire. Alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves.
C'est ce qu'on fait ce matin, comme Jean-Jacques Goldman. On va au bout de nos rêves, on tente de les comprendre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et toujours accompagnés de la psychanalyste et coach Florence Lautredoux. Alors, avec elle, on décortique nos rêves et peut-être même leur signification. Florence, vous, je crois que vos rêves vous ont indiqué, on a appris ça en préparant l'émission ensemble, vous ont indiqué un jour qu'il était temps de terminer une histoire amoureuse ou même de quitter un travail. Mm-hmm. Mais vous aviez rêvé quoi qui vous a permis de prendre cette décision, justement?
Le travail, c'était une histoire de train. À l'époque, je vivais à l'étranger et en fait, c'était un train. J'hésitais à rester et on m'indiquait que je devais prendre un petit train qui, en l'occurrence, correspondait à l'endroit où j'étais. Je travaillais à la Commission européenne pour rejoindre un grand train. Et là, il y avait un magnifique Thalys. Et Thalys, je vous fais pas un dessin, c'est Bruxelles-Paris. Quoi. C'est, à l'époque, j'étais. Voilà. Et donc, il était important de continuer dans l'un pour aller vers l'autre. Parce que j'hésitais à carrément aller vers une autre voie et je voulais rentrer en France.
Oui. Donc vous avez pris le Thalys.
J'ai pris d'abord je suis restée dans le petit train, ouais. Pour ensuite prendre le Thalys. Mmh. Ce n'était que des signes où le rêve, enfin la nuit et la journée, ça a été quelques mois comme ça, ça se répondait.
Et l'amour, l'histoire d'amour pour le coup?
L'histoire d'amour, c'était autre chose. C'était effectivement la fin d'une histoire où il n'y a plus vraiment de connexion, on n'est plus très heureux et on n'arrivait pas de part et d'autre d'ailleurs à décider d'arrêter. Et un jour, j'étais chez des amis, je passe une très bonne soirée chez eux, un week-end où je vais seule, on aurait dû aller à deux, mais là je suis allée seule. Je me couche et le matin, une voix très métallique, mais qui n'était pas ma voix, me dit « le temps est venu de s'en aller ». Oui. C'était d'une clarté, c'était chirurgical. Et je pense que c'était mon ange gardien, ou mon âme, ou mon grand soi. Enfin, c'était pas moi qui parlais comme ça. Et c'était implacable, en revanche. Et je pense que si je n'avais pas
écouté ce rêve
ou cette voix-là, ça n'aurait pas été très bien.
Oui, là, il n'était pas difficile à décrypter.
Celui-là,
il fallait juste l'écouter.
Ah, bah, parfois, ça peut être des mots. Hein. Ouais, certaines personnes n'ont pas des scénarios, mais se réveillent avec une mélodie dans la tête. Moi, j'invite à retrouver la chanson qu'il y a derrière, parce que les paroles seront souvent le message. Perso, moi, j'ai un DJ à l'intérieur. J'ai beaucoup de mélodies le matin. Beaucoup Alors, plus que d'histoires, souvent.
Est-ce d'ailleurs. Que, Florence, vous pouvez nous dire à quel moment, en fait, de la nuit, les rêves interviennent durant notre sommeil? Je ne sais pas, il y a un moment plus propice, au début de la nuit, à la fin?
Plutôt, alors, on considère, je ne suis pas une spécialiste du sommeil, néanmoins, j'ai quelques connaissances, il y a des cycles de sommeil, et on dit que le rêve, mais ce n'est pas toujours non plus comme ça, intervient en fin de cycle, en sommeil paradoxal. Et effectivement, les premiers temps sont plutôt des temps de réparation physiologique, où le sommeil est actif, mais utile.
Le cerveau se nettoie.
Voilà, ouais. Une réparation des boulons, des tuyauteries, enfin tout ça, et un reset de tout. Et vous voyez, c'est pas scientifique. Mmh. Et à la fin, en revanche, de ces cycles-là, il y a effectivement un moment de rêve. Ce qui explique souvent qu'il peut y avoir, au milieu de la nuit, parfois on se réveille, alors un faux besoin ou un vrai besoin, mais qui est d'aller faire pipi, par exemple, mais c'est très souvent, ça peut être aussi une ruse de notre inconscient pour qu'on se réveille avec un rêve en tête, puisque c'est en fin de cycle.
Ah,
et classiquement, le matin, si on ne se malmène pas en se mettant des réveils trop tôt, en fin
c'est souvent
matinée,
là qu'on se réveille avec. Moi, c'est vrai, c'est au petit matin vraiment
petit
qu'il y a
matin,
parfois des
souvent.
Choses qui surgissent effectivement
voilà,
réveil.
Si le sommeil est suffisant.
Mais Florence, pour les gens qui travaillent en horaire décalé, il y en a, hein, comme Julia qui se lève à 3h30 tous les jours. Est-ce que les rêves, ils sont toujours possibles et aussi intenses quand on a. Je ne dis pas qu'elle ne dort pas, mais qu'on en est quand même aussi décalé par rapport au jour, par rapport aux autres aussi.
Bah, si Julia trouve son rythme. Enfin, après, c'est une question de confort personnel.
Alors, si moi, vous êtes... en l'occurrence, je ne me souviens pas de mes rêves, mais parce que j'ai la sensation, ce que vous avez dit tout à l'heure, que peut-être. J'ai mon mental qui est trop sollicité en journée, donc voilà. Mais en vacances, je rêve.
Voilà,
alors pourquoi?
Parce que vous êtes détendu, puis vous n'avez pas la pression. En fait, le rêve, il y a toujours un conflit entre notre inconscient qui a des messages à nous faire passer et notre conscient, qui est notre ego, qui est notre mental, qui est en prise avec la journée, les projets, les éventuelles inquiétudes, anxiétés qu'on peut avoir par rapport à ces projets. Et en fait, la nuit, on détend. Donc l'inconscient peut nous envoyer des messages. Mais parfois, le mental, qui n'aime pas que les choses changent trop dans nos vies, censure. Et donc, la meilleure façon de censurer, c'est de nous empêcher de nous souvenir de nos rêves. C'est pour ça qu'on recommande aux gens qui veulent s'en souvenir de les noter.
J'allais vous dire de tenir donc un journal de rêves. Ça, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on conseille.
Bah oui.
Mais vous le conseillez de le faire, ce journal, uniquement pour les rêves très marquants parce que bah, moi, comme Clément, il n'y a pas longtemps, j'ai rêvé que je réparais le digicode de mon immeuble. Je ne suis pas sûre que ça ait un grand intérêt de mettre ça dans le carnet, non ?
Mais si, parce que, enfin, bien sûr que si. Bien sûr, on rêve tous de faire des rêves magnifiques dans des forêts d'émeraudes, avec des jaguars et des gens. Mais les rêves sont, de toute façon, si l'image nous accroche, quand bien même elle est bizarre, étendre son linge, réparer le digicode, ce qui est sympathique, c'est qu'il y a un message derrière. Donc les noter, oui, parce que ça permet après de le noter votre émotion, ce que vous ressentez quand vous avez fait ce rêve-là. Parfois, on peut être absolument en extase parce qu'on a réparé son digicode.
Ah, mais j'étais très fière parce que je suis incapable de faire ça dans la vraie vie, par contre.
C'est ça qui est intéressant, ça dit des choses.
C'est la sensation.
Et vous verrez, quand vous relirez ça dans la journée, surtout si vous lui accordez un peu de temps le matin en buvant votre café ou votre thé en disant « Tiens, c'est quand même bizarre, cette joie. » Et puis, ah mais c'est vrai que le digicode, j'ai failli être coincée. Vous voyez, associer librement, et le fait de relire, même si c'est trois mots, vous associez, et très souvent, au fil de la journée, vous allez avoir des messages. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez lire le message. Donc c'est comme si on vous envoyait une lettre. Ça vaut le coup de même noter, et du coup, vous la relisez, vous y repensez dans la journée.
Pour améliorer notre qualité de sommeil, et peut-être même celle de nos rêves, on va faire appel à présent à un autre expert. Et c'est vous, Benjamin Lubzinski. Bonjour.
Bonjour, Julia.
Vous êtes, je le rappelle, hypnothérapeute. Vous avez une chaîne YouTube et vous avez récemment sorti un livre chez Albin Michel qui s'appelle « Maîtrise les super pouvoirs de l'hypnose ». Alors, est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, l'hypnose, justement, pour améliorer notre sommeil, pour le rendre plus profond, par exemple ? Et si oui, comment on s'y prend ?
Alors, il y a eu un essai clinique très intéressant. On faisait vivre sous hypnose l'expérience suivante. On était un poisson et on plongeait de plus en plus profondément dans la mer. Et on se rendait compte que plus on plongeait profondément et plus ensuite le sommeil était profond. Et si on allait dans le sens contraire, le sommeil devenait plus léger. Donc effectivement, l'hypnose permet d'avoir un sommeil beaucoup plus profond et donc beaucoup plus récupérateur. Et on peut l'utiliser aussi pour travailler sur ses cauchemars, pour travailler sur ses rêves lucides. Enfin, vraiment, c'est assez génial comme outil pour l'avoir à sa disposition.
Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de cauchemars récurrents. Je crois que vous avez un truc pour ne plus en faire, justement. Quelle est votre astuce, quelle est la marche à suivre ?
Alors, la marche à suivre, elle est vraiment très très simple. C'est de repenser à son cauchemar et de donner une joyeuse fin à ce cauchemar. Moi, je me souviens, par exemple, quand j'étais petit, j'avais un cauchemar assez terrible, assez commun. C'est le cauchemar où une sorcière vient dans votre chambre, vous sentez qu'il fait froid, vous réfugiez sous les draps. C'est absolument terrible. C'est vraiment un cauchemar très très fréquent et également chez les narcoleptiques. Et une fois, je me suis dit, tiens, il faut que je m'en aille. Et je me suis parti avant l'arrivée de la sorcière. Et c'est le cauchemar a disparu. Bon, on peut le faire dans le rêve, mais on peut le faire aussi à l'état de veille ou pendant une transe hypnotique. L'idée, c'est d'utiliser le cauchemar pour en transformer la fin, se rendre compte que c'est un cauchemar, prendre de la distance et lui donner une fin heureuse, quel que soit le cauchemar. Donc finalement, c'est un entraînement qui est très pratique à faire et qui a été vérifié cliniquement par les thérapies cognitives et comportementales. Donc on sait que ça marche.
Et dites-moi Benjamin, est-ce que c'est, vu ce que vous venez de nous dire, est-ce que si je me concentre bien les quelques heures avant le sommeil, est-ce que ça peut jouer un rôle sur mes rêves? Est-ce que je peux les diriger un peu, mes rêves?
Alors, on sait déjà que on emporte une partie de ce qu'on vit environ une heure avant le sommeil. Donc, l'idéal, par exemple, dans mon livre, j'ai fait une séance d'hypnose qui permet de se détendre profondément, d'imaginer de belles choses, parce que, en fait, c'est avec ça que les rêves vont se construire en grande partie. Et aussi, dans cette séance d'hypnose, il y a un travail sur les rêves lucides. Pendant longtemps, on n'y a pas prêté attention aux rêves lucides. C'est assez récent, l'intérêt qu'on y porte. Maintenant, l'INSERM travaille dessus. Il y a beaucoup de neuroscientifiques qui travaillent dessus. C'est quoi un rêve lucide? C'est simplement un rêve dont on prend conscience. Et à partir de là, il se passe plusieurs choses. Soit on a simplement conscience qu'on est en train de rêver, soit on est capable d'agir, de parler, soit on arrive carrément à changer le décor. Et effectivement, pour ceux qui ont la chance d'avoir un vrai entraînement sur les rêves lucides, on peut décider de ses rêves et faire les rêves les plus merveilleux. Ce qu'on ne sait pas, c'est l'intérêt que ça a pour le cerveau. C'est-à-dire, avec les rêves lucides, va-t-on pouvoir guérir les traumatismes? Va-t-on pouvoir travailler sur le deuil? Vous savez, quand on perd quelqu'un de cher, souvent on le voit dans ses rêves. Ça peut être des cauchemars, ça peut être des rêves agréables, ça peut être des rêves qui sont entre les deux, mais qui sont quand même amers. Est-ce que parler à la personne qui est partie, est-ce que lui dire au revoir, ça aiderait par exemple le deuil? On ne le sait pas encore, mais tout ça, c'est en train d'être étudié.
Merci beaucoup Benjamin pour cet éclairage hypnotique. Je reviens vers vous Florence, on évoquait à l'instant les rêves lucides. Est-ce que selon vous, on peut contrôler ses rêves ou quand même ça reste toujours un art qui nous échappe?
Si, bien sûr. Comme on parlait du bouddhisme, ou on parlait même de tous les travaux qui sont réalisés, puis de certaines personnes qui ont la chance de faire des rêves lucides. Pour moi, c'est une chance de pouvoir rêver et d'être conscient qu'on est en train de rêver.
Ces rêves-là, ils sont plus précieux que les autres?
Moi, j'aime pas. En fait, il y a une phrase que j'aime bien, c'est le rêve, pour moi, il est enfant de bohème, quoi. Il n'y a pas de classification, il n'y a pas de rêve plus puissant, meilleur que d'autres. Si, on sent par moments, on a des rêves clairement très indicatif ou d'un chemin à suivre, les fameux rêves du grand soi ou de l'âme. Pour le reste, non, c'est un autre type de rêve, c'est un autre type de rêveur.
Eh bien, merci Florence. On sera de retour avec vous dans quelques minutes pour cette émission consacrée à nos rêves et à leurs secrets. Quels sont les messages que notre vie nocturne essaie, qui sait de faire passer à notre vie diurne? On va continuer de tirer tout ça au clair. Alors, restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1 et merci si vous êtes avec nous depuis le début de cet entretien. On étudie nos rêves aujourd'hui, enfin en tout cas on essaie de comprendre ce qu'ils tentent de nous dire. Et ce décryptage, on le fait grâce à la psychanalyste et coach Florence Lautredoux. Florence vous dit qu'il faut parler de nos rêves à nos proches. Pourquoi c'est si important? Quel est l'intérêt? Parce que moi j'aurais franchement trop peur qu'ils me prennent pour une dingue.
Justement, ça fait rire les gens, ça les détend et puis ça sort de nos... Le mental, c'est assez limité, nos interactions. Voilà, tiens, t'as fait le café, non, merci, voilà. Je prends mes clés, oui, tu rentres plus tôt ce soir. Enfin, donc, de temps en temps, un bon rêve là-dedans, totalement iconoclaste, qui change complètement de perspective, ça produit un éclat de rire. Et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous relatez un rêve à quelqu'un, alors pas n'importe qui, bien sûr, mais très souvent, on comprend mieux son rêve en le racontant.
Et certains détails reviennent, hein, c'est ça.
Exactement. C'est fait pour être partagé. Ouais. C'est un matériau, c'est un autre monde. On vit une deuxième vie. Alors autant faire partager cette deuxième vie aux gens de cette vie-ci.
Au moins, ne serait-ce que pour les faire sourire.
Ne serait-ce que pour les faire sourire. Et puis parfois, il y a des jolies histoires où vous rêvez de quelque chose, quelqu'un, et la personne a rêvé de vous aussi en même temps.
Le même jour ?
Oui, ça peut arriver, ça. Incroyable. Des connexions comme si on se retrouvait. Enfin bref, moi je recommande en tout cas d'en parler, parce que d'abord c'est drôle, c'est vivant. Les enfants adorent ça, ils adorent raconter leurs rêves. Et puis souvent, on comprend mieux son rêve en le racontant. Donc c'est fait pour être raconté. Dans les tribus primitives, les gens racontent leurs rêves.
Mais dites-moi, est-ce que tous nos rêves veulent dire quelque chose ? Est-ce qu'ils ont tous une signification ? Ou parfois c'est juste parce qu'on est trop fatigué, le cerveau divague ? Parce qu'il y a des trucs, c'est quand même complètement barré, quoi.
On ne sait pas. En plus, la volonté de comprendre parfois nous bloque de ce qu'on rêve. Y a des motifs. C'est intéressant, moi j'aime bien le mot les accueillir et les relater plutôt que les comprendre. Parfois on les ressent aussi, simplement.
Est-ce que nos rêves, ils parlent de notre futur ? Parce qu'on parle parfois de rêves prémonitoires, même si, ça j'avoue, je suis un peu dubitative. Ou est-ce que plutôt ils disent des choses de notre passé ?
Ça dépend, il y a plusieurs sortes de rêves. Il y a des rêves qui nettoient des traumas passés ou des choses qui sont encore là et qui affleurent aujourd'hui dans notre quotidien. C'est le côté cathartique du rêve. Mais il y a bien sûr des rêves prémonitoires. Des personnes très sensibles peuvent sentir des choses qui vont advenir pour elles-mêmes et pour d'autres.
Qu'on ait rêvé, vous disiez, on peut avoir des rêves similaires de personnes, on va en parler le matin, c'est marrant, j'ai rêvé de toi, moi aussi j'ai rêvé de toi. Bon, si on travaille ensemble tous les jours, c'est possible de rêver de l'un et de l'autre, parce qu'on se voit souvent, j'imagine, mais est-ce que c'est possible de rêver vraiment la même chose ? Julia et moi, on en parlait la dernière fois, on a rêvé quasiment, alors peut-être pas le même jour, mais qu'on travaillait dans un cirque, alors que je pense qu'on n'a aucune envie, ni l'une ni l'autre, de travailler dans un cirque.
Et Europe 1 n'est pas un cirque, on est d'accord.
C'est ça, mais pourquoi ce rêve commun, même à quelques jours d'écart, c'est bizarre quand même, c'est pas commun de rêver d'un cirque.
Non, c'est pas commun, c'est peut-être lié, ce serait intéressant. Réfléchir à ce dont vous avez parlé ensemble.
On a des collaborateurs en régie qui disent c'est très vexant pour les collaborateurs.
C'est peut-être que vous avez évoqué des choses ou vous avez des expressions autour de ça, ou peut-être que c'est rigolo de puis un cirque. C'est intéressant de voir à quoi vous associez le cirque toutes les deux. Ça vaut le coup d'échanger, prendre un café, discuter autour de ça.
Tiens, moi, je domptais Julia, qui était une lionne.
Mais moi, je vous domptais également.
C'est ça. Non, c'est pas vrai.
J'aimais bien, là, ça commence à devenir sympa. Là,
c'est ça. Alors, on a un message pour vous sur notre répondeur, le 3921. Okay. C'est une question, on l'écoute tout de suite.
Il y a une période où j'ai perdu un proche, j'ai perdu mon père, tout simplement. Et c'est vrai qu'il y avait un peu une phase un peu transitoire, où tous les matins, je me réveillais. Et en fait, j'avais rêvé que je le voyais, qu'il était là et qu'il me disait « Non, non, pas du tout. C'est pas vrai, je suis pas mort. Je suis bel et bien présent. J'étais juste en vacances. » Donc, c'est vrai que c'était assez perturbant. Je pense que c'est totalement une sorte de déni. Parce que justement, j'arrivais plus à savoir si c'était vraiment un rêve. Je me remettais totalement en question. Et j'arrivais plus à comprendre le vrai du faux.
Alors Florence, est-ce qu'elle est dans le déni avec ce genre de rêve par rapport au décès de son papa ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors ça va être une réaction personnelle et en plus c'est une réaction étayée par justement beaucoup d'autres cultures plus spirituelles que les nôtres, entre autres la bouddhiste et les chamans aussi. Moi je pense que votre père est venu vous voir, ou l'âme de votre père, et vous a dit que tout allait bien. Et c'est plutôt comme ça que vous pouvez aussi regarder ce rêve-là. Et très souvent on dit que quand il y a un deuil, les personnes disparues, les défunts, viennent voir ceux qui souffrent, ceux qui évidemment sont profondément affligés de leur départ, pour leur donner soit des messages, soit des informations qui pourraient manquer, soit leur dire au revoir. Et ce serait ma manière. Mais je pense qu'il n'y a absolument rien du déni, au contraire.
Est-ce que, Florence, vous pourriez nous donner quelques clés, peut-être, pour décrypter nos rêves ? Les dictionnaires de rêves, on peut les utiliser ? Vous en pensez quoi, par exemple ?
Je pense que les symboles sont très personnels. On va pas, un lion n'aura pas la même signification selon que vous ayez effectivement vécu dans un cercle petit, que vous êtes passionné de félins, ou que vous avez une phobie, ou vous savez
donc
que votre...
Le dico, ça ne va pas dire grand-chose pour vous, parce que ça sera
être,
pas...
Ça peut être quand même intéressant d'avoir des... Il y a des symboliques communes. L'eau, par exemple, est souvent très qualifiée, très liée aux émotions... Il y a des grands courants jungiens à partir des différents symboles. Donc, moi, je trouve que ça vaut le coup quand on a un rêve, surtout si on a un symbole, on rêve qu'on est dans l'eau, on parle, on s'avance dans l'eau, peut-être d'aller regarder l'océan. Donc, de jeter un œil à ce qu'il faut sur Internet. Vous avez aussi le dictionnaire des symboles. Très, très beau dictionnaire. Ça vaut le coup parce que une autre clé des rêves aussi, c'est que ça nous relie à quelque chose de beaucoup plus vague que nous, vaste, et vague aussi d'ailleurs, et vaste que nous-mêmes. Donc, ce sont des symboles.
Tout à l'heure, Clément, en rigolant dans sa chronique, disait qu'on ne rêve jamais de sa propre mort. C'est vrai, ça ?
C'est intéressant parce que je me faisais la réflexion que je n'ai pas... si, enfin, on peut se voir mourir. Moi, j'ai fait un rêve où je me voyais, pour le coup, je me prenais c'est absurde d'ailleurs, une espèce de boomerang qui me prenait par derrière, mais ça avait une vraie signification dans ma vie. Et je tombais dans un champ et je savais que j'étais morte. Mais j'étais
vous
là.
Étiez au-dessus de vous, donc
voilà.
Vous n'étiez pas,
j'étais pas vraiment morte parce que je contemplais ça. En revanche, ça m'a bien averti d'un problème. Ce rêve était très prémonitoire et utile. Mais le boomerang était donc... Techniquement, si, on peut, mais on se voit à ce moment-là. Donc, on ne disparaît pas. Dans ce sens-là, il a raison.
Quand on est à l'étranger, et parfois, moi, ça m'est déjà arrivé, notamment quand j'étais en voyage linguistique, quand j'étais ado, je me souviens, je rêvais en anglais, mais alors je parlais vachement bien anglais par rapport à la vraie vie. Qu'est-ce que ça dit? Ça, on peut apprendre des choses aussi
Alors, c'est génial. Ouais. C'est qu'il y a un savoir... vous êtes branché sur une fréquence anglophone. Et vous vous êtes senti comme un poisson dans l'eau, bien sûr. Il y a un réservoir.
Mais j'étais fluente dans mes rêves, je parlais super bien anglais.
Bah oui, mais vous êtes branchée sur ce réservoir-là. D'abord, c'est lié sans doute à peut-être un désir. Vous aimeriez parler comme ça. Et puis, vous étiez en dehors de vos conditionnements de française qui dit que, OK, je ne parle pas bien anglais, blablabla. Là, c'était ouvert. Donc,
Et faire un rêve érotique, c'est tromper?
À chaque fois qu'on fait une émission sur les rêves, elle nous régale des rêves érotiques. Je pense qu'il y a un sujet avec Julia Vignelli quand même.
Non, mais c'est étonnant. On s'est toutes un jour ou tous réveillés un peu gênés d'avoir fait un rêve qui ne concernait pas notre partenaire.
Déjà, c'est se régaler et ensuite c'est s'honorer soi-même.
Pas de culpabilité, Julia.
Voilà. Pas de culpabilité. Moi, pas du tout. Okay. Pas du tout.
C'est et d'ailleurs, parfois, les rêves érotiques, ils ne sont pas érotiques, en fait. Non, ça ne dit pas forcément des choses sexuelles. Ce n'est pas parce qu'on rêve toujours qu'on couche avec son collaborateur qu'on a envie, dans la vraie vie, de... Hein,
non, ce n'est pas toujours littéral. Ce n'est pas toujours littéral, mais il y a toujours un... Enfin, les rêves sont très malicieux parce que ils veulent franchir le barrage du conscient et du mental qui n'aiment pas certaines choses. Donc, ils sont détournés, ils mettent des images choquantes pour nous alerter. Tiens, on a quand même le message qui passe parce qu'on est choqués. Quand même, je ne devrais pas coucher. Mais oui, on est choqués. Et ça dit souvent autre chose. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de creuser au-delà de tout ça.
Et
il est provoquant pour nous réveiller.
Et de les noter tous les jours pour pouvoir mieux les analyser. Merci beaucoup, Florence, d'avoir répondu à nos questions. Pour ceux et celles qui voudraient en savoir encore davantage sur les mystères de notre vie onirique, je recommande une nouvelle fois votre livre, La femme qui ne se souvenait plus de ses rêves, chez Odile Jacob. Julia, on va changer de sujet à présent.
Tout à fait. Dans quelques minutes, on va accueillir nos bienfaitrices qui vont nous parler des box de location de vêtements pour enfants. Sont-elles aussi rentables qu'elles le prétendent ou au moins aussi pratiques? On verra ça avec Anaïssa Haddadi. Et puis, on va également vous parler des banques vertes, des banques. Bah voilà, ça c'est Perrine Bramy qui va s'en charger. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Très heureuse de vous retrouver ici dans l'émission qui vous veut du bien. Nous sommes en direct jusqu'à midi et on lance tout de suite la séquence où c'est au tour de nos bienfaitrices de nous prodiguer leurs meilleurs conseils. Bonjour Perrine Bramy.
Bonjour Julia. Bonjour
à tous. Avec vous, on va parler pognon, oseille, sous-sous, c'est bien ça?
Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une banque verte et comment on fait pour en changer et passer à la banque version écolo.
Ouais, bah on va en savoir plus parce que franchement, vous connaissez ça vous, les banques vertes, Julia?
Non, mais j'espère qu'ils n'envoient pas trop de courriers du coup.
Bon, Perrine, on vous retrouve dans quelques minutes car on va commencer par parler chiffon avec Anaïssa Haddadi.
Oui, bonjour
les filles,
bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, vous allez nous soulager, vous allez soulager financièrement de nombreux parents. Vous
écoutez. Oui, autour de la table, on le sait, il n'y a que des mamans là aujourd'hui en studio. On le sait, quand on est parent, parmi les nombreux postes de dépenses, il y a les vêtements. Et à la vitesse à laquelle grandissent nos enfants, parfois, ils portent une seule fois le nouveau jean. Hop, il est grandi trop vite, il est trop petit, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut déjà repasser à la caisse et en magasin. Et bien aujourd'hui, j'ai peut-être trouvé pour vous une alternative à la fois économique et écologique. Je savais qu'il y avait Perrine, donc j'ai fait des efforts. La location de vêtements. Alors le principe, il est assez simple. Vous pouvez louer des vêtements neufs ou d'occasion dès la naissance et jusqu'à l'adolescence.
Ah, pratique. Bon. Mais comment ça marche, Anaïssa? Il y a des formules, je ne sais pas, de location?
Oui, il existe quasiment autant de formules qu'il y a de familles. Vêtements neufs, de seconde main, smala.com par exemple, ou encore jacadi-secondevie.com pour les vêtements d'occasion. Il y a des vêtements de marque de luxe, petit-nomade.com pour une grande occasion. Tiens, un mariage, un baptême, un anniversaire, vous voulez habiller votre fille en grande marque ou votre petit garçon. Des vêtements plus abordables, comme la marque Petit Bateau Location. Donc c'est Petit Bateau Location-... bateau.fr, des vêtements bio et made in France, ça c'est kidsou.fr, et puis il y a des vêtements pour les tout petits, de la naissance jusqu'à 2 ans, c'est Jeanne et Gabriel par exemple qui fait ça, ça coûte 29 euros par mois, vous recevez un petit baluchon avec uniquement des marques françaises dedans comme Jacadi, Cyrillus, Bonpoint, Petit Bateau, Tartine et Chocolat et bien d'autres. Vous trouverez donc forcément dans toutes ces formules la formule et les vêtements que vous recherchez.
Juste 29 euros par mois pour le petit baluchon de chez Jeanne et Gabriel,
oui,
c'est ça
génial, hein.
Ah, vous
c'est
avez
bien.
Dit 29, ok d'accord.
Avec de la layette, ouais.
Bon, comment ça marche concrètement? Comment on loue des vêtements pour les enfants?
Alors, dans la majorité des cas, les locations de vêtements, elles se passent sur Internet grâce à un système de box. Les prix varient de 29 euros à plus de 69 euros par mois. Alors, je vais vous donner des exemples très concrets. 29,90 euros pour certaines marques, c'est 5 pièces.
Quand même, hein.
Donc, 250 euros de vêtements que vous recevez. Et dans les 29,90 euros, il y a le prix de la location des vêtements, mais il y a aussi la livraison, le retour, parce que vous allez les renvoyer, le lavage professionnel et l'assurance tache et trou. Vous pouvez renvoyer...
Les enfants, le problème, c'est que ça abîme.
Et bah, vous pouvez renvoyer un vêtement troué ou abîmé. Il y a d'autres formules. 49,90 euros pour un pack de 10 pièces. Là, il y a une valeur de 500 euros de vêtements pour 49,90 euros. Et 69,90 euros. Alors là, c'est le gros pack. Vous recevez un colis de 15 pièces par mois avec 800 euros de vêtements à l'intérieur. Le principe de la location fait qu'une fois que les vêtements sont trop petits, on n'entasse plus à la maison.
Super.
On ne fait plus de vide-grenier. Alors, on peut toujours en faire. On peut toujours passer aux cousins, aux cousines. Mais surtout là, vous les renvoyez. Et ces vêtements, ils sont relavés, recousus. Alors, quand ils sont très abîmés, bon, on oublie, mais ils sont surtout réutilisés et reloués pour de la seconde main à d'autres familles en version moins chère. D'ailleurs, Juliette, de l'équipe de Bienfait pour vous, a rencontré Marine. C'est une jeune maman, elle est enceinte de son deuxième enfant et elle est adepte de la formule pour habiller sa fille.
En fait, j'ai découvert ça quand j'ai eu mon premier petit. Et aussi, je n'avais pas tellement envie d'acheter des choses neuves. J'aime bien aussi l'idée d'acheter de la seconde main, surtout pour les petits, parce qu'ils grandissent tellement vite que du coup, c'est pas utilisé très longtemps. Et j'ai découvert ce système de box par le biais de l'Instagram poétique. Et j'ai trouvé son univers vraiment tellement doux et tellement délicat que ça m'a donné envie d'essayer. Et effectivement, dans ces box-là, ce qui est sympa aussi, c'est qu'elle met plusieurs choses différentes, quoi. C'est pas à nous de faire la box. Et elle est pleine de bonnes idées. Il y a une petite cuillère en argent qui accompagne des vêtements de seconde main. Enfin, c'est assez sympa.
Oui, parce qu'en plus des vêtements, vous avez des petites surprises à l'intérieur. Donc, en plus de faire des économies, il faut savoir que les familles qui utilisent cette fonction de location de vêtements d'enfants économisent jusqu'à 2000 euros par an, hein, quand même, une fois qu'on a fait le compte. Grâce à la location de vêtements, il y a un côté très ludique, il y a un effet de surprise. Tous les mois, votre enfant reçoit sa box, il l'ouvre, une petite robe, un petit pantalon, une petite chemise, et puis des petits cadeaux parfois avec certaines marques à côté. D'ailleurs, Marine, qu'on vient d'entendre, elle est tellement fan du concept que maintenant, elle offre même des box de vêtements pour les anniversaires, pour les événements, aux enfants de son entourage. Donc, moi, je pense que la box de location de vêtements, c'est une petite ligne à rajouter sur la liste du Père Noël.
J'avoue, super idée. Alors moi, j'aurais eu peur de qu'ils soient troués, les vêtements, parce que je ne vous dis pas, dans la cour de récréation de maternelle, ils ne reviennent pas toujours en bon état.
Non,
mais si c'est
pris en charge,
franchement, ça me rassure. J'aurais envie de me lancer. C'est
allez-y.
Très intéressant.
Vous allez
peut-être louer pour votre fils qui a 15 ans, puis comme ça, après, vous les relouez pour moi.
À 16 ans, circuit court. À 16 ans, c'est mort, ils ne veulent plus, les gamins. Mais avant, c'est génial. Surtout quand ils ne peuvent pas parler.
Il y a beaucoup de formules. Vous allez sur Internet, vous tapez location box vêtements pour enfants et
on y va.
Trouverez la formule qui vous correspondra.
C'est tellement 2022 et bientôt 2023. Merci à vous, Anissa. Allez, on change de thématique à présent. On parle beaucoup de banques vertes, vous savez, de banques responsables ces derniers temps. Mais de quoi s'agit-il? Quelles ont-elles de différents par rapport aux établissements bancaires classiques? Comment en changer? On voit tout ça avec Perrine Bramy. Racontez-nous.
Ah. Et oui, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler monnaie. Pognave. Parce que chaque semaine, je vous donne dans cette chronique des conseils, des astuces pour voir la vie en vert, notamment avec Anissa également. On a vu comment réduire nos déchets sans se prendre la tête, comment faire des économies d'énergie. Mais on ne peut pas faire tout ça, tous ces gestes au quotidien sans se préoccuper de ce problème. Attention, info qui tue.
Notre argent pollue plus que notre consommation. Est-ce que vous le saviez ?
Pas du tout.
Et oui, c'est une info assez méconnue, je l'ai découverte moi aussi. C'est un rapport de l'Oxfam France qui le dit. Un exemple, en octobre dernier, la banque française BNP Paribas a été mise en demeure par des ONG de cesser son appui financier à un géant de l'agroalimentaire brésilien. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle l'accusait de contribuer à la déforestation. Et ça, c'est une première. Est-ce que vous, par exemple, autour de cette table, vous savez, Julia, Anissa, Mélanie, ce que finance votre épargne ?
J'ai honte, mais je ne me suis jamais posé la question.
Eh bien, on ne le sait pas. Et c'est ça le problème, parce que dans la plupart des cas, les banques classiques ne nous informent pas des projets qui sont financés avec l'argent qu'on leur confie. Et je peux vous dire que ce n'est pas toujours joli joli. Écoutez, Raphaël Cross de l'association Reclaim Finance.
Depuis 2016, on a par exemple 352 milliards de dollars qui ont été alloués par les quatre grandes banques françaises aux énergies fossiles.
352 milliards de dollars. Nous sommes ainsi, nous la France, à la troisième place du classement des pays qui investissent le plus dans l'industrie fossile.
Bon, la solution c'est donc les banques vertes, Perrine. Mais c'est quoi une banque verte ?
Alors c'est une banque éthique, c'est-à-dire qui va soutenir non pas l'industrie du pétrole, mais des projets qui ont une valeur environnementale ou sociale. Alors ça peut être des projets locaux, des entrepreneurs sociaux ou bien le monde associatif. Et surtout, la vraie différence avec les banques classiques, c'est ce qu'on appelle ces néo banques, parce qu'elles fonctionnent différemment des établissements français bancaires traditionnels, eh bien ces néobanques, elles informent leurs clients sur l'utilisation qui est faite de leur argent. Et ça, il y a une vraie transparence.
Mais c'est qui sont les meilleures banques vertes pour vous ?
Il y en a plusieurs sur le marché. La plus ancienne, c'est la NEF. C'est la première banque éthique française.
C'est
la
NEF.
On peut dire que c'est la pionnière du secteur. Elle a été créée en 88. Elle finance aujourd'hui, par exemple, des projets d'énergie renouvelable. Le petit hic pour l'instant, c'est qu'on ne peut pas encore ouvrir de vrais comptes courants. C'est uniquement des solutions d'épargne écolo. Il y a aussi Gringot, qui est un petit nouveau sur le marché. Et là, tout est bon. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir un compte bancaire classique, des solutions d'épargne, tout comme dans une banque classique, sauf que chez eux, eh bien, votre compte courant, il participe à la préservation de la forêt amazonienne et votre épargne finance les transports bas carbone, par exemple. Donc c'est bien.
Et les frais, c'est pas plus cher ? Les frais de banque ?
À peu près comme dans les banques traditionnelles. J'ai trouvé une dernière banque dont je souhaitais vous parler, ça s'appelle Helios, c'est une autre néobanque. Là, c'est un petit clin d'œil, mais votre carte bancaire chez Helios, elle sera en bois, bois naturel de cerisier. Oui, ça peut.
Comme ça, elle ne rentre pas dans le distributeur.
Comme ça, on dépense pas. On garde ses sous-sous.
Elle fonctionne très bien. Alors, ça peut sembler anecdotique, mais c'est un vrai symbole de l'engagement écologique.
Et on peut faire des chèques
de cette
en bois
banque.
Avec.
Alors voilà, on connaît ces chèques en bois maintenant, il y a les cartes en bois.
Bon, ce sont celles-là, toutes celles que vous venez de décrire, de toutes petites banques, Perrine. Il n'y a pas moyen de trouver, je ne sais pas, des grands noms de la banque qui soient un petit peu plus vertueux.
Oui, ça peut rassurer si on a envie de rester dans une grande banque. Il faut savoir que les meilleurs élèves en matière d'environnement, eh bien, c'est la Banque Postale et le Crédit Coopératif. Ils font un peu moins bien que les néobanques dont je vous ai parlé. Mais ces deux établissements financiers ont pris quand même un vrai virage vers l'éthique et la responsabilité.
Bon, la vraie question, Perrine, c'est quand même, est-ce qu'une banque verte, ça rapporte autant en épargne,
ça m'étonne pas,
par
pas
exemple
de vous.
Et les pépettes dans tout ça, les pépettes vertes, est-ce que, par exemple, je ne sais pas, les livrets à verre, ça existe ou...
Alors bon, je ne vais pas vous mentir, on se met pas dans une banque verte pour devenir riche, non. Le but de la banque éthique, c'est plutôt d'être sociétal. Autrement dit, vous savez que votre argent va participer à l'amélioration de la société et de l'environnement, et c'est ça, franchement, bien. C'est déjà pas mal. Alors, pour ce qui est du livret A, c'est un peu particulier. Vous le savez, le livret A, c'est toujours le placement préféré des Français. 73% d'entre nous en ont un, mais seules les vraies banques, celles qui ont l'agrément de l'État, peuvent en proposer. C'est un placement réglementé. Les néobanques dont je vous ai parlé, elles n'ont pas cet agrément, donc elles ne peuvent pas proposer de livret A, mais il y a d'autres produits d'épargne. Ensuite, il faut savoir que l'utilisation d'une grosse partie de l'argent qu'on met sur un livret A, c'est strictement encadré. En revanche, il en reste une toute petite partie, et là, la banque est libre de financer le projet qu'elle veut, et c'est là que ça fait la différence, selon Raphaël Cross.
Un livret A à la BNP n'équivaut pas à un livret A à la Banque Postale, puisque les politiques de la Banque Postale ou du Crédit Coopératif garantissent que cet argent ne puisse pas être investi directement dans des nouveaux projets de pétrole et gaz.
Donc, on peut vraiment choisir un livret A qui serait plus vert. Alors, il n'y a plus d'excuses. En plus, pour passer d'une banque à une autre aujourd'hui, c'est super simple. On n'est pas obligé de tout changer. On peut commencer simplement par un livret A. Ce sera déjà très bien. Alors, pour passer le cap, en toute simplicité, je vous recommande le site internet changedebanque.org. change-de-banque.org. Ça a été créé par l'association Reclaim Finance. Il y a plein de conseils et d'infos. Vous y découvrirez, par exemple, l'empreinte carbone de votre banque actuelle. Moi, j'ai testé. Perso, ça fait froid dans le dos.
Allez, on passe à la caisse.
Eh bien, merci beaucoup, Perrine, hein, franchement, pour cette enquête sur ce secteur bancaire dont on entend de plus en plus parler, mais j'avais assez peu d'infos et grâce à vous, bah, on y voit plus clair. Merci, Perrine. Notre émission touche à sa fin, ça y est. Il est presque midi, j'espère que vous l'avez apprécié. On sera de retour demain à la même heure, dès 11h sur Europe 1. Julia, quel sera notre programme demain ?
Ah, c'est un sujet qui va vous plaire, Mélanie, car je sais à quel point vous adorez partager un bon repas en famille ou entre amis. Eh bien, mais vous avez raison, hein, c'est important. Mais si la convivialité s'invitait aussi dans l'étape d'avant, je veux dire en cuisine, on va vous donner des recettes simples et délicieuses pour cuisiner avec vos proches, pour que vos repas soient un moment de partage de A à Z.
Je sens que ce sera gourmand demain. Oui. Pour le moment, place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Bonjour Romain.
Bonjour Mélanie,
quel
bonjour
est le programme chez vous ?
Alors, dans Europe Midi, on va parler de la Covid, l'épidémie repart. Est-ce que vous êtes prêts à remettre le masque dans les transports en commun, à remettre le masque dans les bureaux ? On sera avec le docteur Davido, infectiologue, qui sera avec nous. On va parler de la loi anti-squat et anti-loyer impayé qui passe aujourd'hui à l'Assemblée. On sera avec un représentant des propriétaires. Vous pouvez d'ores et déjà appeler d'ailleurs le 3921 pour donner votre avis. Et puis Emmanuel Macron veut généraliser les RER en région. Les RER qui existent déjà en Île-de-France, il veut les généraliser dans les 10 plus grandes villes de France. C'est une bonne ou une mauvaise idée ? Est-ce que vous l'attendez, ce RER ? Vous appelez le 3921, vous donnez votre avis. On sera également avec Pierre Chasseret, qui représente les automobilistes. Est-ce que ça ne serait pas une mesure anti-voiture ? Je vais poser la question à Pierre Chasseret. Voilà une partie du programme d'Europe Midi.
Très bien Romain, on sera à l'écoute. Merci beaucoup, à tout de suite.
À tout de suite.